Urel, 10 avril 84, Père Philippe, Saint-Joseph.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Priez-vous.
Alors, avant de commencer, je réponds, pourquoi saint Thomas part-il ici de l'idée du bien? Il ne parle pas de l'idée du bien. Il parle de la ratio boni, c'est très bien ça. Ça montre tout de suite qu'il faut distinguer. Hein. Bah, ne traduisez pas ratio boni égale idée du bien. J'espère que vous comprendrez la différence. L'idée du bien, c'est comme si on disait le concept du bien. Non. Quand il parle de la ratio boni, il y a toujours quelque chose d'objectif et de fondamental. La ratio boni, elle est dans la réalité. Mais c'est l'intelligence qui la précise. Tandis que l'idée, c'est dans mon intelligence. Ça, c'est cartésien. Descartes pénètre jusqu'ici. N'est-ce pas ? Pourquoi saint Thomas parle-t-il ici de l'idée du bien ? Cela n'est-il pas encore, si on peut l'appliquer à Dieu ? Bon, est-ce que, donc il ne parle pas de l'idée du bien, il parle de la ratio boni. C'est tout à fait différent, vous comprenez ? Parce que l'idée ou le concept, il est dans l'intelligence. La ratio boni, elle est dans la réalité. C'est très vrai que seule l'intelligence va expliciter la ratio. C'est sûr. C'est l'intelligence qui va préciser ce qu'est la ratio. Donc, c'est l'intelligence qui, saisissant dans la réalité ce qu'est fondamental dans sa beauté, qui parlera de la ratio boni. C'est pour ça qu'on pourra faire un parallélisme entre quidité et ratio. Et nous verrons la différence. Est-ce que l'on peut dire que les raisons de res, d'être, sont considérées dans les points de vue de la simplicité et de la perfection que nous avons vu précédemment? On verra ça au terme. On pourrait le dire d'une certaine manière, mais je ne crois pas que ça avancera à grand chose. On verra si on peut faire l'application. Je n'insiste pas là-dessus. Y a-t-il une différence entre l'exister de quelque chose et l'exister de quelqu'un? C'est-à-dire, y a-t-il une différence entre être et exister? Non, c'est la même chose. Dans le langage courant habituel, je sais que certains, comme Fabreau, ne veulent absolument pas qu'on emploie le mot exister. Il faut reconnaître que dans le langage, quand je dis ceci est ou ceci existe, c'est la même chose. Il y a une petite explicitation dans exister pour mieux faire comprendre que je regarde son actualité, mais c'est la même chose. Je crois qu'il ne faut pas jouer là-dessus. Nous allons tout de suite entrer, si vous voulez, dans la question 5. Nous avions commencé de montrer l'intérêt de cette question, alors je vais tout de suite commencer avec vous. Vient ensuite la question du bien, et tout d'abord du bien en général. In communi. Alors ça, c'est une chose très difficile à traduire dans saint Thomas. In communi. Ça s'oppose à in speciali. Ici, ça s'oppose à la bonté de Dieu. Quand on dit donc, on va regarder la bonté. Bonitas. communion. Ça se différencie à regarder la bonté en Dieu. Si je regarde la bonté en Dieu, c'est un cas particulier, un cas imminent, mais un cas particulier. Tandis que quand je regarde la bonté in communi, j'abstrais le point de vue de la bonté de tous les cas particuliers. Ce n'est ni la bonté du cheval, ni la bonté de Dieu, ni la bonté de l'homme. C'est la bonté en soi. Alors, on aime mieux dire in communi pour ne pas mettre le petit air platonicien. La bonté en soi. Alors on dit in communi. Mais c'est la même chose. Hein. La bonté en soi, c'est la bonté telle qu'elle est comme bonté. Partout elle se trouve réalisée. Donc c'est la raison analogique du bien qu'on cherche. C'est la raison analogique du bien. C'est la bonté in communi. Donc c'est un langage particulier de saint Thomas qui est du reste du temps. Je crois qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être mieux pas employer ça. Et alors traduire le bien en général, j'aime pas beaucoup. Parce qu'on cherche après avoir regardé le général, on regardait autre chose. Alors le piu-piu, c'est le bien en Dieu. Vous voyez, ça ne va pas. C'est pas du tout. Donc le bien en général, c'est pas, ça ne va pas. Il faut plutôt dire, je crois, le bien considéré en lui-même en tant que bien. Plus précis. Alors, voici toutes les questions qu'on va se poser. Au sujet de cette question, on va d'abord... Le bien et l'être ont-ils une même réalité? Ça, c'est très intéressant. Très, très intéressant comme question. Est-ce que nous devons confondre le bien et l'être? Ou diffèrent-ils entre eux? Deuxièmement, à supposer qu'il y ait entre eux une différence rationnelle, lequel est premier rationnellement? Est-ce le bien ou l'être? Bon, si vous pouvez situer entre le bien et l'être une différence, et c'est ça qu'on va essayer de comprendre, entre l'être et le bien, y a-t-il une différence? Tout être, dira saint Augustin, tout être, du fait même qu'il existe, est bon. Donc, à première vue, il ne semble pas que différence. Au niveau existentiel, pas de différence. Mais si vous regardez les rationnels, la rationalitis et la ratio boni sont différents. S'il y a une différence entre ces rationnels, quel type de différence? Comment pouvons-nous les distinguer? Et si on les distingue, qu'est-ce qui est premier, rationalitis ou ratio boni? Vous voyez, la question, elle n'est pas commode, hein, elle est très intéressante. Alors là, vous voyez, ça c'est très original de la part de saint Thomas. Jamais Aristote n'a posé le problème comme ça. C'est pour ça que l'originalité de saint Thomas par rapport à Aristote, c'est beaucoup plus du côté du bien. C'est intégrer dans la vision aristotélicienne tout l'augustinisme du bien. Voilà ce qu'a fait saint Thomas. Et ça, c'est très audacieux. Et c'est très intelligent. C'est ça qu'on devrait beaucoup plus comprendre. Alors, troisièmement, étant admis que l'être est premier, tout être est-il bon ? À quel genre de cause est rattachée la notion de bien? L'essence du bien consiste-t-il dans le mode, l'espèce et la nature? C'est là l'intégration de l'augustinisme dans l'aristotélisme, article 5. Et puis alors, en dernier lieu, en quoi consiste la division du bien en bien honnête, utile et délectable? Donc la fameuse distinction d'Aristote dans l'éthique, distinction qu'il prend aux pythagoriciens, saint Thomas la reprend ici. Et là, vous verrez toute la différence entre la position d'Aristote et celle de saint Thomas. Donc, c'est vraiment là où on voit comment saint Thomas assume Aristote et va plus loin. Donc, on pourrait dire, en termes on dit habituellement, le baptême d'Aristote par saint Thomas. C'est cette question sur le bien. C'est comment, de fait, on voit, Aristote va sortir tout blanc, tout innocent et tout bon. Vous voyez, grâce à ce baptême qui fait qu'on passe de l'être au bien. Et c'est vraiment sous les formes de saint Thomas. Et je crois que ça, c'est très, très intéressant. Très intéressant de voir que c'est là où on découvre un saint Thomas qui dépasse, qui va plus loin qu'Aristote. Il intègre dans sa métaphysique, il intègre dans sa philosophie première au service de sa sagesse, au service de sa théologie, le bien. Il en est conscient, vous voyez, puisqu'il en fait un article particulier. Donc il est très conscient qu'il a là une difficulté nouvelle qu'il a essayé de découvrir, qu'il a essayé de dépasser. Donc, article premier. Le bien diffère-t-il de l'être ? Saint Augustin écrit, pour autant que nous sommes bons. C'est dans la Doctrina Christiana. In quantum sumus, boni sumus. C'est beau comme formule. Hein? En tant que nous existons et que nous sommes, en tant que nous existons et que nous sommes bons. Vous voyez, c'est une vision de sagesse de saint Augustin. Puisque en tant que nous sommes créés par Dieu. Si nous sommes créés par Dieu, nous sommes bons. Que toute œuvre qui vient de Dieu est bonne. Donc, en tant que nous existons, nous sommes bons. Donc, il semble bien, à première vue, qu'il n'y ait pas de distinction entre être et bien, au niveau de l'exister. En tant que nous sommes bons. Alors, voici la réponse de saint Thomas. Le bien et l'être, bonum et ens, sunt idem. Secundum rem. Ça, c'est bien posé. Hein? Le bien et ce qui est, le bonum et l'ens, sont identiques selon la réalité. Donc, saint Thomas met le sou à la pensée augustinienne qui dit en tant que nous sommes bons. C'est, alors c'est là où saint Thomas ajoute, celles différentes secundum rationem tantum. Mais ils diffèrent secundum rationem, hein, ne traduisez pas, mais ils diffèrent rationnellement. Mais ils ne diffèrent que pour la raison. Très mauvais comme traduction. Presque en contresens. Ils ne diffèrent que pour la raison. Mais non, il diffère selon la raison. Ce n'est pas la même chose du tout. Différer selon la raison, alors ce serait l'idée. Il diffère selon la raison, c'est-à-dire que si j'étudie la raison du bien et la raison de l'être, je ne peux pas identifier ces rationes. Alors, il est bien évident que ces rationnesses, je ne peux les saisir qu'en faisant appel à l'intelligence. Mais c'est objectif, c'est pas selon la raison. C'est objectif, c'est un fondement dans la réalité. Cette différente secundum rationem tantum. Alors, on va essayer de montrer. Et sic patet. Je prends le texte latin parce que c'est plus sec. Hein. Et sic patet. Et ainsi, c'est évident. C'est évident pour saint Thomas. Et pour nous aussi. Ratio boni, la raison de bien, consiste en ceci, que quelque chose soit appétible. Vous êtes bon dans la mesure où vous êtes capable de susciter un amour. C'est ça que ça veut dire, hein? La ratio boni, la raison de bien, consiste en ceci, que quelque chose, vous voyez bien qu'il ne s'agit pas du concept de l'idée. L'idée de bien, ça suscite cet appétit. Mais non, l'idée de bien de l'appétit. L'idée de fromage, c'est pas bon. L'idée, c'est pas bon, l'idée. L'idée, c'est l'idée, c'est tout. C'est glacial, l'idée. C'est aliquid, hein? Ratio boni consistit, la raison de bien consiste en ceci, que quelque chose aliquid, aliquid, c'est la réalité, c'est pas l'idée aliquid, que quelque chose soit appétibilis. Donc quelque chose soit appétit. Ça, c'est un concept tout à fait particulier. Qu'est-ce que c'est qu'appétibilis? C'est-à-dire capable d'attirer. Capable de susciter un appétit. Capable de susciter un amour. Et bon, celui qui est capable de susciter un amour. C'est pour ça que l'ami révèle à son ami qu'il est bon. Puisqu'il suscite un amour. Or, être bon, c'est être capable de susciter un amour. Ça va très loin. C'est très délicat comme définition. Hein, et c'est très beau. Ratio boni, la raison de bien consiste en ceci, que quelque chose soit appétible. C'est pourquoi le philosophe, au début de l'éthique, dit que le bien, c'est ce que tous désirent. Le bien, c'est ce que tous désirent. Alors voyez, si vous êtes capable de susciter un amour pour une seule personne, si vous êtes capable de susciter un amour pour une quantité de personnes, ça prouve que la ratio boni en vous est plus profonde. Tandis que si vous suscitez l'amour unique personne, oui, c'est bien, mais c'est pas le bien que tous désirent. Il y a les deux, c'est intéressant de voir que tout de suite on fait allusion à ça. Qu'est-ce que c'est que le bonum au début de l'éthique? Le bien, c'est ce que tous désirent. Et ça, c'est pas une définition du bien. Quand vous dites le bien, c'est ce que tous désirent, c'est une constatation. C'est le fruit d'une expérience. Une pomme est bonne quand vous la faites passer devant une quantité de personnes et que tous voudraient la prendre. Tandis qu'elle n'est pas bonne lorsque tous se détournent et choisissent l'orange à côté. Non, la pomme n'est pas bonne. Tandis qu'au contraire, quand elle suscite un appétit, elle est bonne. C'est ça bien. C'est ce que tous désirent. Or, il est manifeste que chacun est capable de susciter un appétit selon qu'il est parfait. De l'appétibilis, on passe au perfectum. Donc, est appétit, et dit saint Thomas, il est manifeste. Donc, c'est quelque chose d'évident. Nous sommes toujours dans une expérience. Hein. Il est évident que chacun est capable de susciter un appétit, un amour, selon qu'il est parfait, car tout désire sa perfection. Toutes les réalités désirent sa perfection. Donc, pour susciter un appétit, qu'est-ce qu'il faut pour susciter un appétit? C'est être parfait. On va essayer de revenir là-dessus. Car tous désirent leur perfection. In quantum est autem perfectum unum quoque. Or, chacun est parfait en tant qu'il est en acte. In actu. J'analyse l'article de saint Thomas. Appétible, perfectum, in actu. Or, chacun est parfait en tant qu'il est en acte. D'où il est manifeste que, en tant que quelque chose est bon, en tant qu'il est ens, puisqu'il doit être en acte. Être en acte égale ens. C'est vrai, être en acte, c'est l'être en acte. En tant donc, il est parfait en tant qu'il est en acte. D'où il est manifeste que en tant que chacun est bon, en tant qu'il est ex. En effet, l'essai est l'actualitas de toute réalité. Donc, il est l'être impliquant l'essai. Puisque ens, ce qui est. Donc, ça implique le point de vue de l'essai. Parce que l'essai, c'est l'actualitas de toute réalité. D'où il est manifeste que le bien et l'être sont idem secundum rem. Selon la réalité, ils sont idem. Mais le bien dit la raison d'appétit que ne dit pas l'être. Oui, comme c'est intéressant comme article. Là, c'est un objet de contemplation, hein. Ça, c'est un article extrêmement... C'est ciselé, cet article. Hein. Ça, il faut lire, relire et comprendre ce que ça veut dire. Hein. C'est un article... Ce n'est pas une démonstration. Ce n'est pas une démonstration. Alors, cherchez le syllogisme là-dedans. Hein. Ce n'est pas du tout un syllogisme. Pas du tout. C'est la perspicacité de l'intelligence qui pénètre dans ce qui est bon et ce qui est. Et je m'aperçois que ce qui est bon implique l'être en acte, mais que ce qui est bon, si je l'analyse, la ratio boni implique l'appetibilitas. Alors que la ratio entis ne dit pas explicitement la raison d'appetibilité. Ce n'est pas parce qu'une réalité existe qu'elle est appétible. J'existe, donc tout le monde me désire lui-même. On ne peut pas dire ça. Personne d'entre vous ne peut dire ça, du reste. Hein. J'existe, donc je suis capable de susciter non, susciter un amour non. Vous ne suscitez pas un amour parce que vous existez. Ce serait trop simple. J'existe, donc je suscite un amour. J'existe, je suscite un amour parce que je suis bon. Je suis bon parce que j'existe, c'est sûr. Mais il y a quelque chose de plus dans la bonté qui n'est pas dans l'être. C'est la ratio appetibilis. Donc voyez bien ce petit raisonnement très simple et très intéressant de voir ce passage appétit parfait in actu. Alors ça, il faudrait l'analyser pour bien comprendre ça. Cette manière d'aboutir à l'ens in actu. In actu, donc ens. Et ens implique l'essai. Vous voyez, tout ça, c'est pas commode. Hein, parce que si j'analyse d'une autre manière, je peux dire l'appétibilité et la perfection, ce n'est pas tout à fait la même chose. Nous avons vu que Dieu est parfait. Nous l'avons vu, Dieu est parfait. Alors, si c'est la même chose que l'appétibilité, il n'y a pas besoin d'une nouvelle question, est-ce que Dieu est bon ? En vous, est-ce que c'est la même chose, la perfection et la bonté ? Un être est parfait quand, de fait, il est parfaitement intègre. Il a tout ce qu'il faut, il a tout ce qu'il est nécessaire d'avoir à sa nature. Alors, il est parfait. Il y a des gens parfaits qui n'attirent personne. On a tous connu des gens comme ça. Ils sont parfaits. On ne peut rien lui reprocher. Si on pouvait lui reprocher quelque chose, encore, ça irait. Mais on ne peut rien lui reprocher. Alors, parce qu'on ne peut rien lui reprocher, il est parfait, mais il n'attire personne. Personne n'est attiré. C'est plutôt l'inverse. Parce qu'il est parfait, on n'ose pas le toucher. Ça existe, ça. Il y a une espèce de différence entre être bon et être parfait. Dans une communauté, hein, À droite les parfaits, à gauche les bons. N'est-ce pas ? Ou à droite les bons, à gauche les parfaits. On voit très très bien, il y a des gens parfaits, on ne peut rien leur reprocher. Ils sont toujours exactement là, au moment où ils font. Toujours en tenue impeccable, des momies vivantes, n'est-ce pas ? Et qui sont parfaites. Je ne peux rien leur reprocher. Ils n'attirent pas. Ils ne sont pas bons. Et des gens qui sont moins parfaits attirent. C'est curieux, ça. Et donc, c'est pas commode, hein, ce que fait Saint-Thomas ici. C'est pas commode. Il faut bien voir la différence. Alors, c'est très vrai que la bonté implique la perfection. Mais la perfection n'implique pas toujours la bonté. Vous voyez, je peux faire ça. Je peux descendre de bonitas. Je peux descendre. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux descendre. 5 marches dans la descente. Et je pars de la bonté pour rejoindre l'aise. Et je vois que la bonté implique l'aise. Je vois que la bonté implique l'aise. Ça, c'est très vrai. Donc, c'est un raisonnement réductif. La bonté implique l'aise. Mais je ne peux pas dire l'aise implique toujours la bonté. Je ne peux pas remonter autrement. Je suis descendu dans la cave, mais une fois que je suis dans la cave, je ne peux pas remonter en disant... Tout être implique la bonté. Non, je ne peux pas. Il y a quelque chose de plus. Il y a la ratio appetibilis de la bonté. Mais c'est très vrai de dire que le bien implique l'aise. Mais je ne peux pas dire que l'aise implique le bien. Donc, quand je fais ce raisonnement, je fais un raisonnement réductif. Pour saisir le noyau fondamental de la bonté, c'est S. Mais ce raisonnement n'implique pas égalité. Alors je pourrais dire ceci, vous voyez, bonitas égale appétibilité. Appétibilité égale perfection, perfection égale être en acte égale S. Pourquoi je ne peux pas faire ça ? Je ne peux pas mettre égalité. C'est un raisonnement réductif pour saisir le noyau central de la bonté. Et le noyau central de la bonté, c'est S. Mais je ne peux pas dire bonté égale S. Non, puisque je conclus qu'ils sont les mêmes dans la réalité et que leur rationnesse est différente. Donc, en même temps que je fais ce raisonnement réductif, je vois la différence. Ça, c'est typiquement un raisonnement réductif. Je vois qu'il y a quelque chose d'impliqué dans la bonté qui est l'aise, mais je ne peux pas dire que aise et bonté soient identiques au niveau des rationalistes. C'est identique au niveau de la réalité de l'existence. C'est très beau parce que ça fait montrer qu'il n'y a pas une métaphysique du bien séparée de l'être, puisque c'est idem sur la réalité, mais ça nous fait comprendre qu'il y a une connaissance du bien qui n'est pas celle de l'être. Voilà ce qu'on peut dire. Hein. J'espère que vous voyez bien ça. Il faut y réfléchir. Hein. Ça demande beaucoup de réflexion, cet article. Une réflexion qui va loin. Une réflexion intéressante. Alors, je prends tout de suite la première objection qui est très intéressante. La première objection consiste en ceci. Il semble... qu'en effet, le bien et l'être diffèrent réellement. Car Boèce dit, je vois ceci dans les choses, qu'autre est leur être, autre leur bonté. Donc on s'appuie sur l'autorité de Boèce. Boèce, vous savez bien, philosophe du 5e siècle, la déconsolationnée philosophie. Il était en prison et il a écrit la consolation du philosophe. Et c'est là, on comprend très bien, n'est-ce pas ? La consolation du philosophe. Boèce, c'est un latin, très latin. pas le monde grec, c'est le monde latin, Boès. Et ça joue un très très grand rôle, parce que c'était le premier philosophe latin. Ça, je crois, on peut dire que c'est le premier philosophe latin, c'est Boès. Alors, Boès dit ceci, on voit très bien, « Je vois ceci dans les choses, in tuor in rebus aliud esse, quod sunt bona, et aliud esse, quod sunt. In tuor. » Donc, j'intuitionne, comme on dirait aujourd'hui, j'intuitionne dans les choses autres qu'elles sont, autres qu'elles sont bonnes. Alors, réponse de saint Amand. La réponse est très jolie. Cette doctrine rencontre aussitôt de la pensée de Boès. Oui, ça, c'est la glose. Dicendum quod, bien que le bien et l'être sont idem secundum rem. Donc saint Thomas reprend. Cependant, parce qu'elles diffèrent selon la raison, ce n'est pas de la même manière que quelque chose est dit ens simpliciter et bonum simpliciter. Alors, soulignez le simpliciter. Ce n'est pas la même chose. On va tout de suite comprendre. Ce n'est pas la même chose de dire que cette réalité est être d'une manière absolue et qu'elle est bonne d'une manière absolue. Car être à proprement parler signifie être en acte. Et à proprement parler encore, être en acte se dit par rapport à une potentialité qui s'exerce. Ens dicitur proprié, donc l'être est dit proprement, être en acte. Or, l'acte a proprement l'ordre vers la puissance. Selon cela, quelque chose est dit simpliciter, ens, selon donc que prime en premier lieu, il est distinct de ce qui est en puissance. Du fait même que vous dites quelque chose en acte, vous le séparez de la puissance. L'acte sépare de toute potentialité. Que si à l'acte substantiel se surajoute un acte nouveau, ce sera pour la substance un nouvel être, mais non au sens absolu du mot, car être blanc, par exemple, c'est être sous un certain rapport, mais ce n'est pas être tout court, parce que devenir blanc ne met pas fin à un état potentiel absolu. Vu que la blancheur advient à une réalité déjà en acte d'existence. Mais le bien lui répond à l'idée de perfection. Mais le bien, lui, répond à l'idée de perfection. Par celle du désirable. Et par conséquent, il se réfère à un état ultime, à un achèvement, d'où il suit que cela sera appelé bon absolument, bon tout court, qui sera en possession de sa perfection dernière. Quant à ce qui n'a pas toute la perfection qu'il devrait avoir, bien qu'il ait quelques perfections, ce qu'il est en acte, il ne sera pas dit parfait. Selon qu'il est en acte. Il ne sera pas dit parfait tout court, ni par conséquent bon tout court, bon absolument, mais seulement sous un certain rapport. Ainsi, selon son être premier et fondamental, qui est l'être substantiel, une chose est dit être au sens absolu du mot, et bonne seulement en un sens relatif. Selon qu'elle est être. Inversement, selon son acte dernier, alors qu'elle achève sa perfection, une chose est dit être sous un certain rapport, et bonne tout court, bonne absolument. C'est ce que veut dire Boès, et quand ce philosophe affirme que dans les choses autre est leur bien, autre leur être, il faut l'entendre de l'être et du bien pris absolument tous deux. Car en effet, l'être pris absolument est obtenu par l'acte premier et substantiel des choses, et le bien pris absolument par rapport à leur acte ultime ou parfait. Toutefois, l'acte premier comporte aussi un certain bien et l'acte dernier un certain être. Donc vous voyez le raisonnement que donne saint Thomas. Ce n'est pas si commode que ça à bien saisir, mais il est très beau. C'est la manière dont vous estimez les choses. Quand vous parlez qu'une réalité existe absolument, qu'est-ce que vous regardez ? Vous regardez qu'elle existe en elle-même et par elle-même, c'est-à-dire qu'elle existe substantiellement. Notre jugement d'existence sur une réalité porte sur son être premier et substantiel. Notre jugement sur la qualité d'une chose en disant qu'elle est bonne ne regarde pas son être premier et substantiel, mais ce qu'il y a d'ultime en lui. Et c'est vrai, ça, c'est le jugement très simple que vous faites habituellement. Pensez à des choses très simples, très réalistes. On vous sert un bon plat de pommes de terre. Ça existe. Est-ce que c'est bon ? C'est pas la même chose. Vous n'allez pas dire, puisque ça existe, c'est bon. Mais non, on goûtait, vous voyez. Alors ce sera bon pour certains, ce sera moins bon pour d'autres, et pourtant ça existe. Le jugement d'existence regarde la réalité telle qu'elle est dans sa substance. Tandis qu'au contraire, quand vous dites qu'une réalité est bonne, vous ne faites pas appel uniquement à son existence, vous faites appel à sa qualité particulière que cette réalité touche quelque chose d'ultime. Vous ne pouvez rien ajouter. Elle est bonne. Tandis qu'au contraire, quand vous dites qu'elle n'est pas bonne, mais qu'elle existe, vous voulez dire qu'on pourrait ajouter le grain de sel. Alors elle serait bonne. Vous pouvez y ajouter quelque chose. Tandis que quand vous dites qu'elle est bonne, vous n'ajoutez rien. C'est, voyez, c'est ça qui est très curieux. Ce raisonnement de saint Thomas porte sur, on dirait aujourd'hui, un jugement de valeur. Vous jugez différemment la réalité du point de vue de l'être et du point de vue de la volonté. Vous la jugez différemment. Vous avez, j'allais presque dire, deux critères différents. Quel est le critère au point de vue de l'être ? Quand vous dites que cette réalité existe d'une manière absolue, c'est qu'elle existe substantiellement. Une réalité qui existe substantiellement existe parfaitement dans son être. Quand vous dites qu'une réalité est bonne, ce cheval est bon, qu'est-ce que vous voulez dire ? Votre critère est différent. Ça veut dire que, de fait, en lui, la nature du cheval s'est réalisée parfaitement, qu'elle atteint parfaitement son but, son terme. Il y a donc, dans le jugement d'estimation d'une réalité bonne, un critère ultime. C'est que cette réalité peut vraiment réaliser parfaitement ce pourquoi elle est faite. Ce pourquoi elle est faite. Tandis qu'elle existe, vous regardez sa substance. Donc le jugement sur la réalité en tant qu'elle existe Et le jugement sur la réalité en tant qu'elle est bonne, il y a deux critères différents. Ce n'est pas les mêmes critères. S'il y a deux critères différents, il y a donc deux raisons différentes. L'une regarde simplement cette réalité qui existe en elle-même, qui existe substantiellement en elle-même. Et l'autre critère, vous regardez si elle atteint ce pourquoi elle fait. Donc, si elle atteint son terme. La bonté regarde toujours ce qu'il y a d'ultime. Alors que le jugement qui se porte sur une réalité pour savoir si elle existe, se porte sur quelque chose de fondamental en elle. Le jugement d'existence porte sur le fondement, le jugement de bonté porte sur ce qu'il y a d'ultime. Réfléchissez sur le bon, sur les jugements que vous portez. Et c'est très intéressant, vous voyez, de voir le raisonnement que prend saint Thomas. Hein. C'est par le legetai, c'est par l'attribution. Vous jugez différemment. Vous avez un critère différent pour affirmer qu'une réalité existe et qu'une réalité est bonne. Donc saint Thomas fait l'appel à l'expérience. Et votre expérience vous montre bien que autre est l'exister, autre la bonté. Il y a donc des raisons différentes qui commandent mon jugement d'existence et qui commandent mon jugement de valeur de la bonté. Je crois ça très important et c'est très beau. Relisez attentivement cette Ad Primum de saint Thomas et vous découvrirez justement cette manière dont saint Thomas met en lumière les raisons différentes. Et c'est normal hein, que ce soit à travers un jugement que je saisis ces rationnels, puisque ces rationnels sont saisis par l'intelligence. Et donc c'est normal que ce soit un jugement de valeur qui me montre la différence entre ces rationnels. Alors maintenant c'est facile à comprendre les deux autres objections. Donc, seconde objection, au surplus, rien ne se sert de forme à soi-même. Or, le bien se conçoit comme une information, une détermination de l'être, ainsi que le dit le livre des causes. N'est-ce pas la preuve d'une distinction réelle ? Alors, réponse de saint Thomas. Et cela éclaircit également le second doute. Si c'est le bien pris absolument, tel que le procure l'acte ultime ou l'achèvement de l'être considéré, qui est, comme on le dit, l'objectant, une information, à savoir une information plus complète de l'acte premier, une nouvelle forme d'exister. Donc, simplement parce qu'il y a quelque chose qui vient s'ajouter. Donc vous voyez bien comment saint Thomas montre qu'il y a identité entre le bien et l'être et qu'il y a distinction des rationnels. Ça, je crois, capital de le comprendre. Hein. C'est très très important de le comprendre. De bien saisir comment on peut à la fois considérer que l'être et le bien sont identiques qui voit l'être voit le bien. Qui voit le bien voit l'être. Sont idem secundum rem, c'est-à-dire selon la réalité, existentiel et existentiel, ils sont le même. Mais selon les raisons, il y a une différence. L'être implique le fondement, le point de vue du bien implique. L'être fait appel premièrement au fondement, à la substance. Le bien fait appel premièrement à ce qui est de l'ultime. Le terme, ce qui est de l'ultime. Et ceci vous est montré, vous est manifesté par le langage. Je juge différemment d'une réalité en disant qu'elle existe, et je juge différemment de cette même réalité en disant qu'elle existe. Alors, article second.